Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 35. Portrait croisé d'éleveuses de vaches en Lettonie et en Normandie.
Full Continental. Caroline Gillet. Sur France Inter et la RTBF.
Émilie ? Super !
Elle est là, comme prévu, dans une C3 Picasso gris clair, comme elle l'annonçait dans son texto. Texto dans lequel elle disait aussi « Vu la taille de la gare, on devrait se retrouver facilement. J'ai fait 3 changements depuis Paris pour la rejoindre, et de toutes les destinations de mon 3e train, son arrêt a clairement le nom le plus réjouissant, Villedieu-les-Poêles. » Émilie porte des lunettes, une coupe au bol, un pantalon marron, un t-shirt noir. Elle est la dernière de 4 générations de paysans et elle s'occupe avec son frère d'une 30aine de vaches laitières. Et oui, dans cet épisode, on va parler d'agriculture. Et pour poser le cadre, je demande à Émilie, depuis la voiture, de décrire le paysage pour vous qui n'étiez pas avec nous.
Donc là, ma campagne du Sud-Manche, elle est en train de verdir et les arbres sont en train de sortir leurs toutes jeunes feuilles. C'est une campagne qui a subi de gros dégâts avec les remembrements, donc c'était les rassemblements de parcelles. C'était en fin des années 70 où voilà, tout a été massacré, les petits chemins, les haies, pour en faire des grands champs cultivables et puis faire de l'agriculture quelque chose de compétitif. Et avec le matériel qui grossit et puis l'efficacité dans les champs. Maintenant, les conséquences, c'est les animaux qui sont à l'extérieur n'ont plus que très peu d'abri. D'ailleurs, on en voit de moins en moins d'animaux à l'extérieur. Avec pour conséquence, dans les pentes, l'eau qui dévale les ruisseaux et les villages qui sont dans les creux à proximité des rivières se retrouvent régulièrement inondés. Et puis, toutes les conséquences de perte de biodiversité avec l'arasement des talus et la perte du bocage qui est détruit. Et depuis, alors c'était je pense dans les années 90, il y a l'autoroute qui relie Caen et Rennes a été créée. Ça a permis en fait de recréer pas mal de haies, de replanter pas mal de haies.
Quel modèle agricole choisir pour l'avenir? Il y a en ce moment une guerre entre chapelles et on ne sait pas s'il faut se sentir coupable de manger de la viande ou des tomates toutes rouges et pas chères. On a décidé de donner la parole à 2 éleveuses de vaches qui se démènent avec certaines des contradictions de nos temps. L'une est en Lettonie, l'autre en Normandie, c'est Émilie donc. On est ensemble 2 heures seulement avant mon train de retour. On passe devant la maison de son frère, avec lequel elle exploite la ferme, celle de ses parents. Émilie, elle, s'est installée seule dans le corps de ferme.
Moi, j'ai récupéré la maison familiale.
Une grande longère en pierre, avec 5 chambres et des courants d'air.
Qui appartient à une famille depuis de nombreuses générations, puisque la maison a été construite en 1732.
Émilie doit encore faire des travaux, redécorer un peu peut-être. Elle a décidé de reprendre l'exploitation avec son frère Benoît en 2015, très peu de temps avant la retraite de leur père. Bon, on dépasse la maison, on va rejoindre les champs.
Elles te reconnaissent, tu penses?
Sans phase de test, ah oui.
Émilie et Benoît ont créé un GIE, un groupement de 24 producteurs de Normandie qui font de la vente directe en région parisienne. Elles livrent de la viande bovine une fois de temps en temps, du poulet et du jus de pomme bio.
Donc en face, là, on a quelques bœufs, en fait, qu'on va vendre en caissette. Donc lui, il s'appelle Napolitain.
Salut, Napolitain. T'as vu, il reconnaît son prénom. Et ça veut dire quoi, les vendre en caissette? Ça me fait un peu peur, ça veut dire dans des caisses?
Ça veut dire les vendre à des consommateurs en direct pour les consommer.
Ça veut dire ce que je pensais.
Voilà, c'est ça. Nos consommateurs sont contents, je ne sais pas trop comment décrire tout ça, mais quitte à consommer de la viande, autant savoir comment elle a été élevée. On les emmène nous-mêmes à l'abattoir, en fait, et ça fait toujours un pincement au cœur, mais en même temps, je les emmène confiantes, en fait, je sais où je les emmène. Moi, j'ai grandi, c'était notamment avec les petits lapins, où maman disait... Sur une portée, j'avais le droit de m'attacher à un petit lapin et puis les autres, ils finiraient forcément pour faire du pâté. Et puis voilà. Donc ça, je pense que ça forge un peu à grandir dans l'idée que voilà, on élève des animaux pour se nourrir et pour nourrir les nos voisins et nos les citoyens quoi.
Manger de la viande, c'est aussi un plaisir. Et puis,
est-ce que tu dis que ça a plus de sens de manger de la bonne viande que de ne pas en manger, finalement, en termes de par rapport à ta conscience?
De ne pas en manger, je sais pas, c'est un choix que je respecte après tout. Ce que je me dis, c'est que si on ne consomme plus de viande ni de produits laitiers, si on va jusqu'à la mode du véganisme, le paysage autour de nous va fortement changer, en fait, parce que malgré tout, si on enlève tous les animaux là autour de nous, les prairies qui sont autour de nous, qu'est-ce que ça va devenir? Les champs de culture en face là, de maïs qui est en train de pousser, qu'est-ce que ça va devenir? Et donc on laisse la place à la forêt, parce que finalement, ce que nous, les humains, on a besoin de consommer pour manger, c'est une petite quantité, quoi.
Donc là, ils vivent combien de temps dans les champs comme ça?
Alors les bœufs, comme ça, ils vivent jusqu'à 3 ans.
Okay.
Là, c'est numérique.
Ah, numérique.
Le fils de Image. On essaye de donner un lien entre le nom de la maman et le nom du petit, ce qui nous aide à retenir les noms aussi.
Je prends un peu d'ambiance d'oiseaux, de vaches qui ruminent, tout ça.
Oui, tu peux t'approcher vers là.
Voilà le son qu'émet un bœuf normand quand il renifle un micro. Je demande à Émilie pourquoi elle avait hésité à reprendre la ferme. Elle me dit qu'en fait, la question ne s'était jamais vraiment posée. Que ses parents lui ont laissé vivre ses choix sans pression.
Petite, aller me rouler dans la paille toute fraîche ou dans le foin qu'allait être bottelée, c'était des choses très sympas, c'est des souvenirs d'enfant, mais c'était plus du plaisir pour moi qu'il n'y avait pas de travail associé, quoi.
Adolescente, Émilie rêvait plus tard de s'occuper d'enfants. Mais elle s'est dit qu'avant, il fallait qu'elle fasse une liste des choses qu'elle tenait à faire absolument. Une saison de travail à la montagne pour faire du ski et boire du vin chaud, des vendanges, du woofing, notamment au Canada. Et elle a raison, je pense qu'il faut toujours faire des listes. Moi, j'ai retrouvé la mienne il n'y a pas longtemps. Dans la cave de mes parents, j'avais mis que je voulais être archéologue. Comme quoi. Émilie, elle, après avoir complété sa liste, a fait une formation d'éducatrice et elle a trouvé son premier CDI.
Je me suis dit au bout de quelques mois que je m'ennuyais dans ce métier et que je n'avais pas le droit de m'ennuyer dans le... En travaillant auprès d'enfants, on n'a pas le droit de s'ennuyer, quoi.
Émilie s'est dit, quitte à gagner le SMIC, autant que je sois mon propre patron.
Et donc je me suis retrouvée à faire un BPREA, donc un brevet de responsable d'exploitation agricole en Lozère. J'ai le sentiment en fait de partir de zéro, même si j'avais une éthique et une vision globale de ce que faisaient mes parents avant. Et donc au fur et à mesure de la formation, je me suis dit que pourquoi aller chercher ailleurs ce que j'avais ici, c'est-à-dire... des terres qui étaient déjà en bio, un réseau de vente et puis un sol qui fonctionne bien. Enfin, quand on est en Lozère et qu'on voit les brebis manger les cailloux, on se dit que ouais, la Normandie, c'est chouette en fait.
Je vous propose ici d'écouter Jean-Baptiste Parentoen. Il est sociologue et politiste. Il est en post-doc à l'EHESS où il étudie les reconversions vers l'agriculture.
Déjà, il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'en 2010 et 2013, au niveau européen, plus de la moitié des agriculteurs avaient plus de 50 et 55 ans. Donc la question est de savoir qui va remplacer ces agriculteurs et est-ce qu'ils vont être remplacés, puisqu'il y a aussi un phénomène qui est celui des agrandissements des exploitations agricoles ou des concentrations des exploitations agricoles. Donc il y a un véritable enjeu ici de savoir si finalement ces chefs d'exploitation qui partent vont être remplacés par des grandes exploitations ou au contraire par des exploitations qui seront équivalentes. Donc on voit finalement qu'il y a une forme de déspécialisation parfois du groupe agricole et une ouverture de ce groupe qui passe à la fois par le départ des enfants d'agriculteurs dans d'autres milieux sociaux et à l'inverse d'autres milieux sociaux qui veulent devenir agriculteurs.
Et ce que je ne voulais pas, c'était traire des vaches, de la peur de la redondance, de la double traite quotidienne.
Ce que tes parents faisaient ?
Ce que mes parents faisaient, oui. Quand on s'est installé, on devait repartir en production de viande, de vaches limousines, et arrêter tranquillement la production laitière. Et puis finalement, je suis allée traire pour la première fois 2 jours avant mon installation, au 1er juillet 2015, donc le lundi d'avant. Mon père m'a vu arriver dans la salle de traite, il a fait des yeux assez surpris. Et puis je lui ai dit, vas-y, montre-moi, et puis on y va. Mais finalement, j'avais jamais trait une vache avant mon installation. Et puis voilà, j'ai très vite été autonome.
Et donc, t'as kiffé traire les vaches?
Alors, j'aime bien traire les vaches, j'aime bien la relation qu'on a avec les animaux à ce moment-là. Et puis, il y a la réalité économique qui va derrière, c'est que un gros bovin, une limousine, une vache allaitante, fera un veau dans l'année. Le veau, on pourra le vendre 900 euros, donc même en bio. Éventuellement, il y a un peu de prime, mais on ne sait pas si on y aura le droit. et une vache laitière qui produit 6000 litres de lait sur une année, elle va rapporter quasiment 3000 euros entre la vente de son veau et sa production laitière. Donc voilà, 900 euros, 3000 euros, le rapport est vite fait. On est dans une zone où les terrains agricoles sont très très chers. On est ici, dans le coteau, un peu plus loin, 15 000 euros l'hectare. Ça commence à faire pas mal en fait. Il faut avoir une bonne production derrière pour pouvoir rembourser toutes ces sommes.
On retrouvera Émilie plus tard. Je vous propose d'abord de rencontrer une autre fille d'agriculteur qui, elle aussi, s'est dit que plus tard, elle ne serait jamais paysanne comme ses parents et qui, aujourd'hui, pourtant, a des dizaines de vaches. Je l'ai rencontrée à Riga, un jour où elle avait fait 2 heures de route depuis sa campagne au sud pour rejoindre la capitale et acheter un tracteur. Elle m'avait donné rendez-vous dans un bar super stylé de Riga qui s'appelle le Cacassé, avec des grands espaces et des graffitis sur les murs. Alma porte une jupe courte au-dessus d'épais collants. Elle a des boucles d'oreilles faites de tranches d'orange séchée. La couleur est assez proche de celle de ses cheveux qui sont arrangés en dreadlocks. On peut dire que son look ne pourrait pas être beaucoup plus différent de celui d'Émilie. Elle est un peu plus jeune qu'elle, elle a 26 ans. Et elle, sa liste de rêves et de souhaits, elle se les fait tatouer directement sur le corps, un peu partout, pour ne pas les oublier. Par ailleurs, Alma est très très enceinte de son 3e enfant. On commande à boire d'abord, et comme elle était loin de ses vaches, à Riga, elle me les fait écouter. Voilà d'abord une vache laitonne, donc, qui renifle un téléphone. Sur les photos, les vaches d'Alma ont des robes moins tachées que celles d'Émilie, plus uniformes. Elles semblent plus velues. Elles ont plus un style de bison. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elles ont des étiquettes jaunes accrochées aux oreilles. Mais avant de parler de ces vaches, je demande à Alma pourquoi elle a choisi qu'on se retrouve dans ce bar.
Ici, il y a 3, 4, 5 ans, mon mari travaillait au bar et on ne se connaissait pas encore. Et on s'est rentrés dedans alors que j'allais aux toilettes. Donc c'est ici qu'on s'est rencontrés, c'est ici où on a passé pas mal de temps ensemble. Je lui ai fait quitter son boulot pour l'emmener travailler dans une ferme et il a complètement changé sa façon de vivre à cause de moi. Et je suis vraiment reconnaissante.
Quand tu rencontres quelqu'un aux toilettes, comment est-ce que tu, après ça, tu approfondis une relation? Comment ça s'est passé?
Je lui ai fait faire des sortes de tests et par exemple, je lui ai demandé de venir avec moi au bal des fermiers. Je voulais voir s'il savait danser, s'il pouvait se sentir à l'aise dans des situations assez absurdes. Et il a réussi ses examens. Et puis voilà, on a commencé à sortir ensemble. Les mêmes buts dans la vie. On est un peu comme des partenaires.
Les parents d'Alma sont nés et ont grandi dans le village où elle vit aujourd'hui. Je lui demande si eux aussi étaient fermiers.
Oui,
ils sont tous fermiers. Mes parents sont agriculteurs, ils font des céréales, des raisins. Et mes grands-parents étaient aussi des fermiers, mais pendant la période soviétique, à l'époque des kolkhozes. Certains disent qu'ils regrettent le temps de l'Union soviétique. Ils pensent que la vie était plus facile, que c'était plus simple d'avoir un travail quand on vivait à la campagne notamment, parce qu'il y avait du travail pour tout le monde. Aujourd'hui, tu dois tout faire toi-même. Tu dois être une sorte d'entrepreneur pour pouvoir survivre dans le milieu rural. Donc oui, c'est plus difficile pour les personnes qui, avant, avaient une vie plus confortable.
Petit rappel pour les kolkhozes. L'URSS avait commencé à collectiviser ses terres dès les années 30. Et après la Seconde Guerre mondiale, quand la Lettonie a été intégrée à l'URSS, le pays a adopté la même politique agricole. Les terrains ont été divisés entre les kolkhozes, des coopératives de producteurs agricoles, et les sovkhozes, des fermes d'État. La terre, le bétail et les outils ont été alors mis en commun, et ils étaient gérés par des chefs d'exploitation nommés directement par le parti.
Et à cette époque, les ouvriers ne travaillaient pas comme les propriétaires d'aujourd'hui. Chacun avait une tâche précise. Certains étaient des agronomes, d'autres conduisaient les tracteurs. Maintenant, les fermiers possèdent leurs terres, ils sont responsables de tout ce qui peut se passer sur leur terrain. À cette époque, tout le monde faisait de la merde, mais c'était pas grave parce que personne ne vérifiait si le travail était bien fait. L'important, c'était de produire et d'exporter. C'était assez désorganisé. Par exemple, les animaux n'étaient pas bien traités. Le bétail se faisait massacrer devant d'autres groupes de vaches. Tout se faisait dans la pagaille.
Je suis bien contente de ne pas avoir vécu tout ça. Mais maintenant, c'est vraiment différent. Surtout depuis qu'on est dans l'Union européenne, avec toutes ces règles qui ont été mises en place. C'est vraiment deux mondes différents.
Est-ce que tu peux me parler de la transition des années 90?
Dans les années 90, les terres qui formaient les kolkhozes ont été divisées. Et chaque ouvrier pouvait obtenir une partie des terrains qui étaient vendus pour presque rien. Certaines personnes qui n'étaient pas agriculteurs ont acheté des terres parce qu'ils le pouvaient. Et le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde veut vendre ses terres au prix le plus élevé possible. Il n'y a souvent que les fermiers étrangers qui sont capables de les acheter et les locaux n'ont pas les moyens. Donc il y a beaucoup de fermiers danois ou suédois qui possèdent des terres lettonnes. Aujourd'hui, c'est assez stable économiquement. C'est fou ce que ça a été comme évolution. C'est pourquoi je suis assez optimiste pour le futur de notre ferme. Et je ne pense pas que j'aurais pu faire tout ça sans avoir grandi dans une famille de fermiers. Pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ça peut être dur de continuer à avancer, même dans les moments difficiles.
Alma raconte qu'elle a commencé son exploitation avec un seul taureau qui vivait dans une petite grange. Et en seulement 3 ans, ils sont arrivés à 60 animaux. Je lui demande pourquoi elle a choisi de produire de la viande à une période où beaucoup dénoncent cette production.
Parce que j'ai vu le nombre de produits chimiques achetés chaque année pour les cultures. Tout ce qu'on doit mettre dans les sols pour avoir de meilleures récoltes, c'est fou. Alors que le fumier d'origine animale est un très bon fertiliseur. Donc voilà, je voulais faire partie d'un système agricole plus propre.
Alma me dit qu'elle n'a pas le label bio. Elle en a eu marre de remplir de la paperasse. Elle dit aussi que parmi les conditions pour devenir bio, il fallait ne pas faire grandir son troupeau de plus de 10% par an. Or, elle voulait que son exploitation se développe plus vite. Alors, elle a décidé d'utiliser des méthodes bio sans certificat. Aujourd'hui, la Lettonie est un des pays les plus verts d'Europe. On estime qu'environ 10% des exploitations ont le label.
Je pense qu'il y a bien une raison pour laquelle toutes ces règles ont été mises en place. Et je veux croire qu'elles sont utiles et qu'on en a besoin. Mais dans des petits pays comme le nôtre, où le milieu rural est en train de mourir parce que les gens partent, avoir des lois aussi contraignantes, ça ne nous aide pas à nous développer.
Quelques chiffres glanés sur le site Toute l'Europe. L'Union européenne est la première puissance agricole mondiale. En 2016, la production agricole européenne représentait 405 milliards d'euros. L'État européen y contribuant le plus est la France, 17% du total de l'Union européenne, suivi de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Pologne. Les céréales représentent 10,7% de la production agricole totale, la France en étant de loin le plus important producteur, suivi de l'Allemagne et de la Pologne. Elle est également le premier producteur de bovins, tandis que l'Allemagne et l'Espagne comptabilisent le plus grand nombre de porcs.
Je pense que les subventions européennes sont moins élevées pour nous parce que les productions agricoles de Lettonie sont beaucoup moins importantes qu'en France ou en Allemagne ou au Danemark. Mais du coup, c'est très dur de rivaliser avec ces pays qui, eux, peuvent vendre des produits à bas prix. Je vois bien que les anciennes générations ont peur de se battre pour leurs idées et leurs droits. Ils ont peur d'être arrêtés s'ils disent ce qu'ils pensent.
Il y a une photo qui circule sur Internet sur laquelle on voit les agriculteurs français en train de se battre pour leurs droits, d'immenses groupes qui tentent de changer les choses. Et on voit la même chose qui se passe en Allemagne, beaucoup de personnes ensemble se battant pour leurs droits. Et puis, il y a la Lettonie. Et sur la photo, il y a un mec qui est assis devant les locaux du gouvernement. Il fait une grève de la faim. Et il est seul et personne ne le rejoint. C'est complètement ridicule. Donc voilà, les choses se passent comme ça en Lettonie. On se plaint sur Facebook, on se plaint sur Internet. Mais quand il faut descendre dans la rue pour protester, il n'y a plus personne.
C'est différent pour les plus jeunes.
Comparé aux anciens, les jeunes sont un peu plus courageux. Ils sont prêts à faire des choses plus risquées.
Voilà Alani, Differently. Merci Djoubaka pour ses choix. Merci à vous d'être là. Après ça, il y aura Émilie, ses vaches, ses poules et même peut-être la naissance d'un veau. Vous écoutez Full Continental, vous êtes sur la RTBF La Première ou alors encore sur France Inter, vous nous écoutez en direct, avant ou après un barbecue parce que c'est dimanche, ou alors vous nous écoutez en différé, peut-être même sous l'eau, parce qu'il paraît qu'il y a des lecteurs audio qui permettent ça. J'ai le fantasme, du coup, que certains entendent en pleine apnée, peut-être même alors qu'ils portent des palmes, ce son de poule normande. On n'est pas loin du Mont-Saint-Michel, qui ce jour-là est dans la brume. Émilie est agricultrice, elle a une trentaine de vaches, et aussi des poules, donc. Elle vient de restructurer son poulailler pour répondre aux exigences du bio.
Les petits poulets qui sont libres d'aller dehors, donc on a... ceux-là, ils ont 2 mois. En fait, à 3 semaines de vie, on commence à ouvrir une petite trappe à l'arrière pour qu'ils puissent commencer à crapahuter à l'extérieur. Et puis, quand ils sont un peu plus grands, qu'ils sont bien emplumés, on ouvre les trappes vers l'extérieur. Voilà, où là, ils sont libres d'aller et de venir. Là, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, donc ils sont plutôt à l'intérieur. Et les poulets ont peur du danger qui vient du ciel, c'est-à-dire les oiseaux, les rapaces. Moi, j'ai peur d'autre chose, c'est plutôt le renard, qui nous a fait une petite visite samedi dernier. Et la surprise n'était pas très sympa, avec 80. Sur le lot de 260 poulets, il y en avait 80 sur le carreau samedi dernier.
Bon, la prochaine fois qu'il y a un renard... faut courir plus vite, hein.
Vous l'aurez compris, dans cette émission, on parle d'agriculture et donc d'écologie. Je demande à Émilie si, à son échelle, elle a remarqué le changement climatique.
Les parents, entre 1976 et 2015, ils ont vécu 2 années de sécheresse. C'est-à-dire 1976, l'année de leur installation, et 2003. Nous, on a vécu 4 étés. 2015, très sec. 2016, très sec. 2018, très sec. 3 sécheresses en 4 ans, en 4 étés.
Et tes parents, 2 sécheresses en 20
ans. 25 ans.
25 ans.
Mmh. Ouais. Ça fait peur un peu. Hein. Il y a des insectes dans notre verger. On a par exemple le Carpocaps qui était quasi inexistant il y a 10 ans. Aujourd'hui, enfin l'année dernière, on a eu 2 générations de Carpocaps. Et le Carpocaps, il a besoin de temps sec et chaud pour se développer. Et l'été dernier, il y a eu 2 générations de Carpocaps.
Tes parents et tes grands-parents, comment ils observent cette situation qui évolue? Qu'est-ce qui a bougé depuis leur époque? Parce que tes parents étaient quand même assez pionniers dans le bio, s'ils oui. se sont installés en bio dans les années 90.
Mes grands-parents, du coup, mes grands-parents du four avaient autant de juments que de vaches, c'est-à-dire 6 ou 7, parce que la production était essentiellement équine, donc pour la jument de sel, la vente de poulains de sel.
D'accord. Voilà.
Et du coup, la grosse différence, elle se fait dans les années 70.
Voilà, c'est ça. À la fin des années 70, à l'installation de mes parents, où ils ont intensifié le nombre d'animaux en laitier, ils se sont retrouvés avec 42 vaches sur 24 hectares. Donc ils sont rentrés à fond dans le système qui disait « il faut produire, il faut faire du chiffre, il faut faire du lait ».
Au début, il y avait donc 42 vaches pour 24 hectares, à la fin 42 hectares pour 32 vaches. C'est un peu dur à suivre, donc pour reformuler, il y a eu de plus en plus de terres pour de moins en moins de vaches.
Donc quand ils se sont installés, eux, ils étaient bien dans le système avec un achat extérieur de nourriture important et notamment de protéines. Ils produisaient, ils faisaient que du maïs autrement. Et ils ont complètement changé le système. En fait, au bout de quelques années, un enfant, deux enfants, trois enfants, des heures de tracteur, pas de revenus, des animaux pas forcément en bonne santé, et à se dire, il y a un problème quelque part et ça nous correspond pas, qu'est-ce qui se passe? Et donc, au fur et à mesure du temps, ils se sont dit, bon, il faut qu'on trouve une autre façon de faire. Et donc là, ils sont revenus sur des systèmes de pâturant, donc avec des prairies, diminuer la part de maïs pour la supprimer l'année où ils sont passés en bio, en 98.
Et à l'époque, ça devait être étonnant, quelqu'un qui passait en bio dans la région ou pas ?
Complètement. Complètement, c'était un peu... C'était pas forcément bien vu, quoi.
Le père d'Émilie militait pour la FNSEA et puis il est passé à la Confédération Paysanne, où il a travaillé longtemps avec José Bové. Émilie, elle, n'est pas syndiquée.
Je suis plutôt engagée au niveau du réseau bio en Normandie, où là je passe un peu de temps quand même avec ce réseau. Maintenant, le réseau est plus là, lui, pour garantir en fait le label bio et donc les critères d'éligibilité au bio qui sont communes à toute l'Europe et qui, par le biais des lobbies et des grosses entreprises, pourraient avoir tendance à s'alléger vu le vent en poupe que le bio a aujourd'hui. Donc moi, je pense pas que ça soit une bonne idée de construire des poulaillers de 12 000 poules à tout va, parce qu'on arrive, on va se retrouver en bio. C'est ce qui se fait, hein. Quand on se retrouve avec 12 000 poules dans un poulailler, faut pas rêver. Elles vont pas toutes à l'extérieur et on arrive dans un système qui va être totalement identique. En fait, c'est de la bio-industrielle. On va se retrouver avec des surproductions et donc avec des chutes de prix. Et c'est les producteurs qui vont se retrouver une fois de plus dans la mouise, pour le dire gentiment. J'ai cru entendre que la règle allait changer au niveau bio européen. Mais en tout cas, il faut que nous, producteurs bio, on soit vigilants à ce que le cahier des charges reste honnête par rapport à ce que l'on souhaite de la bio, quoi. Garder une bioéthique et ne pas se retrouver dans une bio-industrielle.
Parce qu'il y a plusieurs labels bio, apparemment.
Le label l'Eurofeuille, qui est le label identique pour l'ensemble des pays européens. Et ensuite, il y a des labels comme Nature et Progrès qui correspondent à des critères et des cahiers des charges, un cahier des charges beaucoup plus strict. Maintenant, moi, c'est plus l'Eurofeuille, en fait. C'est celui-là qu'il faut qu'on préserve. J'ai peur que de développer plusieurs labels en dehors, ça soit une source de confusion pour les consommateurs, en fait.
Et il paraît que c'est des privés qui attribuent l'étiquette bio.
Oui. Moi, j'ai le sentiment que le travail est fait de façon consciencieuse avec l'entreprise, en tout cas avec laquelle on travaille. On a un contrôle sur rendez-vous une fois par an où chacune de nos factures est épluchée. Enfin, voilà, on respecte les règles, il n'y a pas de souci. Si on a un souci, ça nous est notifié et sous peine de même perdre le label momentanément si jamais on fait une erreur. Enfin voilà, donc, a priori pour nous tout va bien, j'ai rien à cacher, donc en fait ils viennent, on boit un café et puis on fait le tour des parcelles et je suis toute tranquille, quoi. Ils font des prélèvements.
Émilie dit qu'elle aimerait un jour avoir des enfants.
Un jour mon prince viendra. Pas par M6 en tout cas.
Ils seront libres de choisir ce qu'ils souhaitent faire et qu'en attendant, elle a 11 neveux et nièces qui aiment beaucoup venir dormir à la ferme. D'ailleurs, une de ses nièces est dans la voiture avec son père. C'est lui, son père François, qui me ramène à la gare. Et Juline, la nièce, donc, nous raccompagne. Elle est sur la banquette arrière et elle joue avec du slime.
On s'est pas trompé. Ville Dieu les poils, 15h23.
Je pose la question évidente à François. Quelle a été sa réaction quand il a appris que sa fille et son fils choisissaient finalement de reprendre l'exploitation?
C'est-à-dire que lorsque Benoît me l'apprend, il me dit... ce soir, 20h à l'apéro, et on se dit, s'il nous paie l'apéro, il a une annonce à nous faire. Peut-être que, comme il a une compagne et qu'il y a déjà des jumeaux, je me dis peut-être qu'il y a une petite sœur en route. Et en fait, la petite sœur, c'était l'installation avec sa sœur 3 mois et demi après.
Waouh.
Ah oui, ça c'était. Et la petite sœur est venue juste après d'ailleurs.
Vous avez eu les deux cadeaux. Vous avez eu la totale.
Elle a déjà 1 an et demi. Oui, on a. C'est vraiment le triple cadeau là.
Et toi derrière, tu vas reprendre la ferme un jour?
Non, moi je voudrais devenir vétérinaire, mais je suis très contente de venir à la ferme pendant les vacances avec les tatas et tontons.
Et pourquoi pas reprendre la ferme un jour?
Bah, ça me plairait, mais oui.
C'est un oui, ça?
Oui.
Alors, vous validez le grand-père?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a 11 petits-enfants. Je crois que sur les 11, il y en a au moins, pour l'instant, je dirais 8 ou 9 très attaché à la ferme. Je sens ce métier revivre quand on a une relation avec les consommateurs et que l'on est capable d'expliquer que l'on n'a rien à cacher, que l'on ouvre sa ferme, que l'on accueille à la ferme.
Très bien, ben merci beaucoup.
Ben merci à vous. Hein.
Ah, voilà le train, génial.
C'est de l'autre côté alors?
Oh là là,
on n'avait pas tellement d'avance, mais...
Ouais, non, on n'avait pas... Merci beaucoup.
Je fais la bise.
Oui.
Avant de vous quitter, j'aimerais juste vous faire entendre quelque chose que j'ai adoré découvrir ce matin en arrivant au travail. Voilà, quelques jours après notre rencontre, j'ai rappelé Émilie.
Allô? T'es en train de traire, là?
Le bruit de la machine, effectivement, je suis en train de traire.
Ça va, ça se passe bien?
Ça va, c'est mieux que ce matin.
Ah bon? Ce matin, ça n'allait pas?
Ouais, c'était compliqué ce matin, mais c'était la patronne qui était pas trop de bonne humeur, du coup, les vaches... suivre l'humeur du patron en général.
Et pourquoi t'étais pas de bonne humeur ce matin?
Parce que ce matin, on a eu un petit appel de la laiterie pour nous annoncer une nouvelle pas très drôle, c'est-à-dire que le passage du laitier de jeudi soir avait un problème d'antibiotique dedans, donc on a fait une erreur à la traite.
Il y avait de l'antibiotique dans le lait.
Voilà, c'est jamais une bonne nouvelle, c'est la première fois que ça arrive, mais c'est pas agréable.
Et comment ça se fait?
Parce qu'on a une vache qui est malade... et qui a nécessité un antibiotique, parce que voilà, il y a certaines causes qui ne peuvent pas se soigner uniquement avec des plantes ou des huiles essentielles.
Mais du coup, comment est-ce que ça s'est retrouvé dans le lait?
Par une erreur humaine, parce qu'en fait, on écarte le lait des bêtes quand ça arrive, on met leur lait dans un bidon, le lait ne va pas dans le tank à lait directement, et là, ça s'est retrouvé, ça a été mal branché, en fait, le bidon, je ne sais pas.
Quand ça se produit, en fait, le lait que vous envoyez est toujours testé, alors?
Le lait systématiquement.
1600 litres de lait à la poubelle, ça représente 900 euros.
Ouais, donc un peu inquiète aujourd'hui. Et les vaches aussi.
Ça, elles sont plus nerveuses en salle de traite. Ça peut être des bouses ou elles urinent. Voilà, elles bougent plus à la traite, quoi.
Ah ouais. Entre-temps, tu sais, j'ai reparlé avec Alma, qui est la jeune agricultrice qui travaille elle aussi avec des vaches, mais en Lettonie. Et elle m'a envoyé un message pour toi. Alors, t'es pas sur WhatsApp, mais je me demandais si je pouvais te le jouer. Attends, hein. Tu me dis si t'entends.
Ouais.
Greetings from young farmer to young farmer.
Alors elle dit coucou, salutations d'une jeune fermière à une autre jeune fermière. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu avais l'impression d'être assez soutenue par ton gouvernement et par l'Europe pour faire face à des concurrents qui sont des fermiers plus anciens et qui sont là depuis plus longtemps et donc pour lesquels c'est peut-être plus facile? Est-ce que toi, tu te sens assez soutenue?
Good luck with everything.
Alors, j'ai envie de répondre oui et non en bonne réponse de Normande. Ce qui concerne la PAC, alors ça semblait tendre vers un réajustement depuis quelques années, notamment en aidant les gens avec les petites structures. C'est surtout que le calcul de base avait été fait sur des revenus. En tant que jeune agriculteur, on récupère les montants des aides PAC à l'hectare qu'avait le cédant. C'est plus ou moins important suivant quel type de ferme on reprend et ça peut créer effectivement des grosses inégalités. Ce sont les plus grosses fermes qui effectivement avaient les primes PAC, qui ont les primes PAC les plus importantes. Pire aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont passés en bio depuis pas très longtemps, les aides semblent assez compromises. Je comprends pas ça de la part du gouvernement parce que moi, le gouvernement a tout intérêt à faire en sorte que sa population soit en meilleure santé possible, qu'il continue d'y avoir des campagnes avec beaucoup d'agriculteurs et plutôt des petites exploitations qui fassent vivre un grand nombre d'humains. Sauf que là, c'est absolument pas ce qui se passe, quoi. Voilà, il faut, pour vivre, il faut s'agrandir, il faut produire plus, il faut être compétitif. face à l'Europe. Donc il faut produire du maïs, il faut produire du soja. N'empêche que quand on produit plus, il faut avoir plus d'animaux. Qui dit plus d'animaux dit refaire un bâtiment. Qui dit refaire un bâtiment dit avoir des charges supplémentaires. Et c'est l'engrenage, en fait. Une fois qu'on a mis le doigt dans cet engrenage, c'est terrible.
Avant de raccrocher, Émilie m'a fait écouter un petit veau qui était en train de téter.
Maintenant, je vais les mettre dehors, les vaches, parce que Flavie va véler ce soir. Donc, il faut absolument qu'elle sorte vite pour être dans son champ, pour véler dans une zone propre.
Comment voilà, tu le sais?
Son comportement a changé parce qu'elle est distante, alors que c'est d'habitude elle, la chef du troupeau. Elle a des glaires qui pendouillent de sa vulve. Et elle a la mamelle très très pleine, très gonflée. Elle a du mal à se déplacer un peu parce que le veau est déjà en position pour sortir.
Mmh. Et du coup, tu seras là pour l'aider cette nuit?
Non, je vais la laisser tranquille. Flavie, c'est ma traînée, donc elle a 9 ans. Elle se débrouille très bien toute seule habituellement. Je vais, avant d'aller me coucher, je vais aller jeter un œil, voir si tout se passe bien, mais... il n'y a pas de raison, en fait.
Émilie m'a envoyé des vidéos ce soir-là de Flavie qui s'est couchée en arrivant dans les champs. Un signe qui apparemment ne trompe pas. Émilie, elle, est allée dormir en me disant que les naissances peuvent mettre jusqu'à 2 à 3 jours. Elle m'avait promis une nouvelle vidéo en arrivant au champ ce matin avec le verdict naissance ou pas naissance.
Eh bien, salutations de la pluie normande et de sa campagne.
Émilie marche d'un pas rapide vers le fond d'un champ où se trouvent 5 ou 6 vaches.
Où est Flavie ce matin? Hier soir, je suis retournée la voir, elle a tombé la nuit. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est remise debout, elle s'est remise à manger, genre « Tu vas me laisser tranquille, il ne se passe rien, laisse-moi. » Voilà, alors Flavie est face à nous. Et on voit une petite boule rouge à côté d'elle. Hop.
Hop, c'est quand elle passe au-dessus du fil électrique pour rentrer dans le champ.
Sinon, elles vont pas se lever. Allez, 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 on y va! Allez, viens! Qu'est-ce que c'est que cette chose?
Là, elle découvre le petit veau, qui est bien sûr adorable, et qui se fait lécher par 2 vaches, qui s'écartent quand Émilie s'approche.
T'es près de ton veau, toi, Flavie? Salut les filles! Oh, bonjour les chouchous!
Le petit veau dort, roulé en boule.
Tout bien endormi.
Émilie lui caresse la tête.
Salut, toi! Ouais! Alors, petit mâle, petite femelle? Petit mâle. Bonjour, mon bonhomme, t'es joli comme tout, dis donc. Alors qu'on trouve un joli nom.
Vous l'aurez deviné, on serait ravis d'avoir vos suggestions pour le prénom de ce petit veau. Émilie dit qu'il nous faut donc un nom en P, sachant que la sœur du veau s'appelle Madonna. Écrivez-nous vos suggestions sur la page Facebook de l'émission, sur Full Continental, ou sur franceinter.fr, ou encore sur le site de la première, sur la RTBF. Je sens que Claire Brault, par ailleurs, va adorer dessiner des vaches et des veaux pour l'émission de cette semaine. Vous retrouvez ses dessins aussi sur Instagram ou Twitter, et sur le site de Libération, puisque chaque lundi, Full Continental est dans le quotidien, et ce, jusqu'aux élections européennes le 26 mai prochain. Merci beaucoup à Benjamin Riquet à la réalisation, à Martine Messonnier et Victoire Foire au montage, et à Constance Cabouret qui termine son stage cette semaine, qui a fait un boulot splendide. C'est elle qui signe la voix française d'Alma. Merci à Maxime Ingrand à la technique. Bon barbecue, bon crawl et à dimanche prochain.